Du dimanche 8 au jeudi 12 septembre 2002, à Rabat, Marrakech. Les drapeaux français et marocains, arrimés aux luttes, flottent à l'arrière de Noisette en guise d'au revoir aux membres de la fédération venus nous encourager. Karim et Oussama nous accompagnent à scooter jusqu'à notre première pause afin de déguster avec nous de délicieux melons. Les tandems s'engagent sur la route de bord de mer, prenant soin de s'écarter des grands taxis et des camions roulant à toute allure. Un cortège de motos nous double alors. D'après Azedine, c'est Moulay Rachid, le frère du roi Mohamed VI, habitué à emprunter cette route à moto. Nous atteignons Casablanca à la fin de notre première journée, avec 102 km au compteur. Khalid nous accueille chez lui. Nos deux copilotes deviennent alors nos pilotes. De la mosquée Hassan II à la Médina, en passant par les administrations où travaillent Khalid et plusieurs responsables d'associations de personnes handicapées, ils nous font découvrir la capitale économique du Maroc. Le soir, nous faisons la connaissance de Mohamed, le beau-frère de Khalid. Avec son allure de jeune sage, habillé d'une tunique traditionnelle berbère, la barbe bien taillée, il prend le temps de nous expliquer les fondements et les règles de sa religion, ainsi que sa vision du monde en tant que musulman. Ses commentaires nous permettent d'aller plus loin dans notre découverte du Maroc. La vie est réglée autour des cinq prières. Saut, au lever du soleil, Dor, vers midi, Assar, vers 16h, Maghreb, au coucher du soleil, et Richa, vers 21-22h. Nous adoptons également ce rythme, car Khalid demande à s'arrêter pour prier à chacune de ces heures. Nous le guidons jusqu'à la mosquée la plus proche quand il y en a une. Dans le cas contraire, nous lui indiquons l'est à la boussole. Il déroule alors son tapis de prière, se lève, se courbe, s'agenouille, appuie son front contre le sol, se relève, murmurant des versets du Coran. Nous transportons donc un tapis de prière, un Coran en braille et une pierre qui lui permet de faire ses ablutions. Ce rituel est vite devenu notre quotidien. Nous aussi avons à parler de notre religion. Le « Je vous salue Marie » chanté sur l'esplanade du mosquée reste un moment spirituel fort qui nous a tous rassemblés autour d'un même absolu exprimé de façon différente. Nous reprenons la route après 24 heures passées à Casablanca, frappés par le contraste entre l'agitation, la densité de ce Paris marocain et les petits villages ruraux suivants. Un troisième tandem aux couleurs du Maroc nous accompagne le long de notre première étape, guidé par le pilote de l'association de Khalid. Surpris, nous découvrons qu'il a le même père que Cyrano et Noisette, un constructeur lyonnais. Issa, un passant, nous accoste à Azemmour tandis que nous recherchons une échoppe pour déjeuner. Il insiste pour nous faire visiter sa ville, ancien comptoir portugais. Malgré une histoire difficile, il est fier de nous guider, selon ses propres mots, avec son cœur. Il devient difficile de savoir qui est le guide entre Issa, qui ouvre les portes de sa ville, Azedine et Khalid, qui traduisent et commentent, et nous-mêmes, qui aidons nos amis à se diriger, main dans la main. Les tandems retrouvés, nous remercions Issa et lui laissons discrètement un petit pourboire. Quelle erreur ! Issa se sent offensé, considérant son geste comme un cadeau. Mal à l'aise, je lui explique que ce que nous lui donnons n'est en rien une rémunération, simplement le signe de notre reconnaissance. Après 5 bonnes minutes de palabres, il comprend et accepte. C'est toujours difficile de savoir comment se comporter, même aidé de nos copilotes. Un petit geste est souvent attendu quand quelqu'un comme Issa nous prend en charge pendant plusieurs heures. Mais ce même geste peut, dans certains cas, blesser. Comment s'y retrouver? Nous rejoignons El Jadida, la nouvelle en arabe, dans l'après-midi. Le caïd a été prévenu de notre arrivée par Azedine et Khalid. Ces derniers ont aménagé leur selle et leur guidon en bureau de businessman. Leur téléphone portable sonne régulièrement pendant que notre attention se porte sur la route qui défile. Où allons-nous dormir ce soir? Nous ne le savons jamais à l'avance. Ces derniers organisent et négocient cette logistique au téléphone. À l'ère du télétravail, on pourrait proposer le tandem travail, un bon moyen d'allier travail et activité sportive et culturelle. À l'arrivée dans une ville, nous dirigeons le tandem à l'écoute de leurs indications. Chaque soir, une surprise nous attend. Un fonctionnaire territorial vient souvent nous rendre visite et met à notre disposition des chambres dans un internat, dans un centre social, voire dans un hôtel. Nous côtoyons ainsi des jeunes et des moins jeunes, étudiants ou travailleurs, avec des niveaux de vie fort différents. Les contrastes sont toujours très importants. Ceux qui ont un emploi, de fonctionnaires si possible, peuvent prétendre à une vie agréable. On devine le taux important de chômage simplement en traversant des villes et des villages dont la population est manifestement démunie. La plupart des jeunes de plus de 20 ans que nous rencontrons ont pourtant au moins un bac plus 2. Pour autant, la plupart de ceux qui ont un travail exercent dans un domaine loin de leur spécialité. Un diplôme en électronique et mécanique peut mener à devenir boucher. C'est une belle preuve d'adaptation, mais aussi un gâchis de compétences. Du bord de mer, nous nous enfonçons désormais dans les terres, quittant la verdure et la brise pour un climat sec et une végétation raréfiée. Rien à faire. Les marchands de figues de Barbarie, postés en bord de route, refusent de nous vendre moins de 3 kilos de ces fruits à la pulpe sucrée et rafraîchissante. Nos tandems sont suffisamment lourds, 26 kilos à vide auxquels il faut ajouter 26 kilos de bagages, plus le poids des passagers. La route est plus difficile. Les distances entre les villages s'allongent. L'eau de nos bidons est tellement chaude qu'on pourrait presque y faire infuser du thé. Les camions transportant les poissons d'El Jadida à Marrakech ou revenant avec des fruits et des légumes défient la bonne allure et nous avertissent de leur présence à coups de klaxon. La masse d'air déplacée fait dévier le tandem de sa trajectoire à chaque passage. Un 4x4 de la police se met à nous suivre. Nous apprenons lors d'une pause qu'il a pour mission de nous escorter. À partir de ce moment-là, nos anges gardiens sont relevés à chaque frontière de province. Nous roulons à une moyenne de 25 km/h. Je les imagine hésiter entre rester en première ou passer la seconde. Nous n'avons pas ce problème avec nos 24 vitesses adaptées à notre allure. Il ne nous manque que la clim. La température dépasse les 45 degrés. 50 km séparent les échoppes où nous refaisons le plein d'eau fraîche, ou moins chaude en tout cas, et buvons un thé. Un règle nous entoure de part et d'autre. La route est rectiligne, perpendiculaire aux courbes de dénivelé. Dans ce no man's land, nous passons de 14 km/h en montée à plus de 50 en descente. La dernière colline demande plus d'efforts que les autres, mais la récompense se trouve juste derrière. Une pente douce jusqu'à une importante oasis de verdure. Marrakech, après une étape de plus de 140 km. Nous sommes heureux de nous laisser charmer par la place Jemaa El Fna, ses stands de jus d'orange pressé, de spécialités culinaires variées, ses animations autour de charmeurs de serpents, spectacles improvisés et préparés, ses groupes de musiciens, le tout dans un joyeux brouhaha.